Aujourd'hui, je reçois Bernard Stiegler, professeur de philosophie et directeur de l'IRCAM à Paris, pour parler de philosophie et de technique.
La philosophie dans le miroir, une émission proposée par Serge Margel.
Bernard Stiegler, habituellement, quand on parle de technique, on oppose souvent ce terme à la nature, au vivant, à tout ce que la nature produit spontanément. Et pourtant, dans votre ouvrage, La technique et le temps, vous définissez la technique comme ce qui poursuit la vie par d'autres moyens que la vie. Donc on a l'impression que là, pour vous, la technique est finalement une sorte de continuation de la vie.
Oui, en effet, je m'appuie beaucoup pour cela sur le travail d'André Leroy-Gourhan, qui, dans son ouvrage Le geste et la parole, identifie des processus de morphogenèse, par exemple à travers l'évolution des squelettes, des organismes animaux, et depuis l'origine même de la vie, des processus dont il montre, par exemple à travers l'évolution de l'appréhension ou de la motricité, que finalement la prothèse, l'apparition de l'artefact et de l'outillage, il y a entre 5 et 10 millions d'années, parce que finalement ça apparaît avant même l'homme, à mon avis, ça se dessine, disons, ça s'esquisse avant même l'homme, eh bien ça appartient à des tendances extrêmement profondes qui commencent très 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 avant l'apparition de la technique à proprement parler. Le concept important de Leroy-Gourhan, c'est le concept de processus d'extériorisation. Leroy-Gourhan a montré de manière, à mon avis, définitive, même si il est consternant de voir à quel point ni l'anthropologie, ni la biologie, ni la zoologie n'en ont tiré les conséquences presque 40 ans après, ce qui prouve que parfois le monde scientifique est quand même d'une extrême lourdeur, n'est pas très dynamique. Donc Leroy-Gourhan a montré que la technique, mais le lapsus n'est pas hasardeux, la technique est un processus d'ajout d'une nouvelle mémoire, une troisième mémoire par rapport à la mémoire de l'espèce que l'on appelle génétique et à la mémoire de l'individu qu'on appelle aussi parfois épigénétique ou nerveuse. Leroy-Gourhan montre que il y a quelques millions d'années apparaît une troisième forme de transmission de la mémoire individuelle. Plus exactement, apparaît une troisième forme de transmission de la mémoire qui permet la transmission de la mémoire individuelle au niveau de l'espèce, qui du coup devient autre chose qu'une espèce, mais ce qu'on va appeler un genre, en l'occurrence le genre humain. Et que ça signifie que la vie est transformée en profondeur, puisque là c'est moi-même qui tire ces conclusions, c'est plus Leroy-Gourhan. Hein. La vie, à l'époque de Leroy-Gourhan, elle est définie en gros par la théorie moléculaire, c'est-à-dire le vivant sexué, c'est ce qui est doté d'une double mémoire, la mémoire de l'espèce et la mémoire de l'individu, et il n'y a aucune communication possible entre l'une et l'autre. Et du coup, il n'y a pas de caractère acquis héritable. On ne peut pas transmettre un caractère ou une expérience individuelle à la postérité des descendants. Eh bien, avec la technique, c'est plus du tout le cas. D'autre part, Leroy-Gourhan inscrit tout ça dans ce qu'il appelle la conquête de la mobilité, c'est-à-dire du temps et de l'espace. Il soutient, Leroy-Gourhan, que le vivant est soumis à ce que Darwin appelle la lutte pour la vie, mais que cette lutte pour la vie chez les animaux est essentiellement une conquête de la mobilité. Alors, il peut y avoir des formes non mobiles de conquête de la mobilité. Je prends un exemple, le papillon qui prend la couleur et la forme de l'écorce de l'arbre où il se protège est immobile. C'est dans l'immobilité qu'il se réfugie contre la mobilité de la chouette ou du prédateur. Mais, comme dirait l'autre, à savoir Aristote, c'est une forme de rapport au mouvement, cette immobilité. C'est depuis le mouvement qu'on peut la penser. Le roi Gouin dit ça. Il faut penser la vie depuis le mouvement, parce que la vie est essentiellement anima, mobilité, animation, donc mouvement. Et c'est depuis le mouvement qu'il faut penser à la technique. La technique est une modalité de conquête de la motricité qui apparaît avec l'homme. J'ajouterais d'ailleurs qu'elle n'apparaît avec l'homme, c'est vite dit. On m'a souvent objecté, surtout des cognitivistes ou des gens comme ça m'ont souvent dit, mais les singes ont déjà des techniques. Pas simplement des techniques au sens plus ou moins métaphorique de la technique du castor ou de l'araignée, enfin les trucs habituels, ou du papillon dont je viens de parler. Parce qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des techniques, ce sont des métisses, comme on dirait, des ruses du vivant. Mais ce ne sont pas pour autant des techniques au sens strict. Personnellement, j'appelle technique ce qui est essentiel à la vie, sans être dépendant des lois de la vie, et qui évolue indépendamment de la vie. Typiquement, un outil taillé est essentiel à la vie du tailleur d'outils. Si vous l'enlevez, ça, c'est ce que dit Rousseau. Privez-le de ses outils, il est fichu dans la forêt, il est plus viable. Deuxièmement, les outils évoluent dans le temps, indépendamment de l'organisme qui les fait évoluer. Donc ils ont une dynamique endogène qui est liée alors, à ce que le roi Gouin, et d'autres d'ailleurs, Simondon, mais moi-même j'ai essayé de contribuer à ça, Marx en avait lancé le projet dès le Capital, dans le premier livre du Capital, une théorie de l'évolution technique. Je ferme cette parenthèse. Les cognitivistes, donc, m'ont maintes fois objecté, Joël Proust par exemple, oui mais tu dis ça et en réalité il y a des techniques chez les singes. Alors, je le sais très bien, j'ai eu un singe, moi, pendant des années j'ai élevé un singe, et je sais à quel point le singe est complexe. Mais moi je mets le singe dans l'homme, pas du tout pour la même raison que les généticiens américains qui croient avoir trouvé quelque chose au niveau du code génétique du chimpanzé, qui ont cru pouvoir dire il y a 6 mois, finalement le chimpanzé ferait partie de l'histoire de l'humanité. Ils le disent pour de très mauvaises raisons, parce qu'ils s'imaginent que c'est par le génome qu'on résout cette question. Pas du tout. Ce qui se passe au niveau des génomes n'a, à mon avis, qu'une importance extrêmement mineure. Ce qui est très important, c'est le statut qu'a l'extériorité technique. Et en effet, chez les grands singes, il y a indubitablement ce qu'on appelle des cultures techniques. Ça, c'est absolument connu aujourd'hui. Et ça n'est pas un hasard non plus si les primates, pas les primates, les Gardner, psychologues américains qui ont élevé Washu, qui est une guenon célèbre, ont réussi à lui apprendre le langage des signes, c'est-à-dire des sourds-muets, et que Washu, c'est tout à fait attesté, a enseigné à ses propres enfants le langage des signes. Et on a constaté, parce que ces singes ont été observés sous caméra en permanence, que Washu signait, comme on dit, communiquait avec le langage des signes, avec ses enfants, hors de la présence des hommes. Ce qui veut dire que, véritablement, elle avait intégré le dispositif. Moi, ça ne me dérange absolument pas de dire que l'homme commence avec le singe.
Mais Bernard Stiegler, quand vous dites qu'il y a dans la technique un phénomène d'extériorisation, vous voulez dire que par la technique, c'est-à-dire par la production d'outils et de processus, l'homme va pouvoir s'extérioriser au sens où il aura un rapport au monde, il aura un rapport à autre chose qu'à lui-même. Ça voudrait dire que, par exemple, les animaux n'en ont pas, ou ils n'ont pas de monde, et le monde n'appartient qu'à l'homme. Est-ce que ça veut dire ça?
J'irai pas jusqu'à dire ça. D'abord, au moins, je prendrai la précaution de Heidegger de dire qu'ils sont peut-être pauvres au monde. Mais non, je n'irai même pas jusqu'à dire qu'ils sont pauvres au monde. Je dirais simplement que la question du monde, je l'entends comme la question du cosmos, c'est-à-dire de l'agencement, de l'arrangement et du cosmétique. Dans cosmos, il y a cosmétique. Le magnifique mythe de Pandora est là pour nous rappeler toujours que finalement, ce qu'on appellerait dans un langage moderne l'hominisation, mais les Grecs diraient plutôt l'apparition du mortel, et moi je préfère parler comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, le chimpanzé fait partie de l'homme si on veut, la question de l'homme ne m'intéresse absolument pas. Pour parler en fait de manière très claire, ce qui m'intéresse c'est la question de ce à quoi nous tenons dans ce que nous appelons l'homme. Je suis convaincu que l'homme va être surmonté, enfin je suis convaincu, je l'espère, parce que de toute façon l'homme ne durera pas. Il a peut-être déjà disparu depuis un certain temps, sans que nous le sachions. Je dis toujours à mes étudiants, quand j'ai l'occasion de leur parler de ce genre de questions, que Le premier zingentrope ne se prenait absolument pas pour un homme. Il était convaincu d'être un singe. Nous, aujourd'hui, nous disons 4 millions d'années après, mais c'était un homme, puisqu'il taillait des outils. Donc nous sommes peut-être en train de faire tout à fait autre chose que quelque chose qui correspond à ce qu'était l'homme, et nous ne nous en rendons pas compte. Donc, la question de l'homme a un intérêt extrêmement secondaire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi nous tenons dans l'homme. Ça, c'est très important. Et nous tenons à l'ouvert, à ce que Bergson, Deleuze, Heidegger, Derrida et tant d'autres que j'estime appellent l'ouvert, le caractère ouvert. Nous tenons à l'ouvert, pour parler de manière peut-être moins énigmatique et dans un langage presque scientifique, nous tenons à la négantropie, à la singularité, au bonheur du singulier, de l'expérience de l'autre, de l'idiome, de la diversification idiomatique qui passe par la diversification technique. Et je reviens à votre question. Pour moi, la langue fait partie de la technique. Parler, c'est s'extérioriser déjà. Le roi Gouran a montré de manière absolument claire que la condition de la technique, c'est la capacité d'agencer des signes, et la condition des signes, c'est la capacité d'extérioriser des prothèses. Donc c'est la même compétence qui apparaît avec le langage et la technique, c'est pourquoi il a appelé son livre « Le geste et la parole ». Il lui dit « On ne peut penser le geste que depuis la parole, et la parole depuis le geste ». C'est un même processus. Cela étant, cette extériorisation, entre guillemets, est en effet une subite différenciation du milieu, d'un nouveau genre, qui existe chez les animaux. Il y a évidemment un monde de l'attique, comme l'a dit Deleuze, tout à fait évident. Mais c'est un monde, en un sens, tout à fait différent d'un cosmos. Bon. La question pour moi aujourd'hui, à travers la technique, c'est que la technique contemporaine, et je dis bien contemporaine et non pas moderne, je crois, parenthèse, que Heidegger a raté la question de la technique contemporaine. Il a essayé de penser à la technique contemporaine à partir de la technique moderne. Et il appelle ça d'ailleurs la technique moderne. Or, c'est pas du tout la même chose, la technique contemporaine et la technique moderne. Il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Je ferme la parenthèse. La technique contemporaine nous porte aux limites d'un processus qui s'est spécifié, je crois, au néolithique, un processus qui a engendré un nouvel âge de la technique, qui n'est pas simplement la technique, mais la mnémotechnique à proprement parler. Non simplement, pas simplement la technique en tant qu'elle transmet de la mémoire de manière spontanée. Un silex taillé emporte avec lui la mémoire de celui qui l'a taillé. Donc de ce point de vue-là, toute technique est mnémonique ou mnésique. C'est pour ça d'ailleurs que le fantasme freudien est bourré de chapeaux, parapluies et autres gadgets techniques de ce genre, et que la bobine du petit Hans, c'est un objet technique. Le fantasme et la technique sont inséparables. C'est ça que dit Pandora, le mythe de Pandora, qui est ciselé par Athéna et Héphaïstos, couverte de bijoux, etc. Le cosmos dont je parlais tout à l'heure. Le fantasme et la technique sont originairement liés. Mais ça apparaît, cette technique-là, il y a au moins 4 millions d'années, certains disent 17 millions d'années, parce que les premiers stockages de roches basaltiques par les hominidés remonteraient à 17 millions d'années. Bon, ce sont des hypothèses. Peu importe, je dirais, ça m'intéresse pas beaucoup de ces problèmes de datation. En revanche, je pense qu'il y a 10 000 ans, un nouveau processus se produit, ou on pourrait dire il y a 20 000 ans avec Lascaux, voire même 40 000 ans avec la grotte Chauvet. En tout cas récemment, à la très grande échelle de l'histoire de l'humanité, ou de la préhistoire de l'humanité, c'est l'apparition de mnémotechniques à proprement parler, c'est-à-dire de techniques qui sont faites pour la transmission de la mémoire. Et ces techniques-là, ces mnémotechniques vont se développer, elles sont la condition de l'apparition de la société citadine, c'est-à-dire ce qu'on appelle la civilisation. Et elles vont se développer de manière extrêmement importante chez les Égyptiens, chez les Mésopotamiens, chez les Européens qui vont résulter de tout ça, et chez les Chinois, et aussi chez les Incas. Mais j'insiste sur les Chinois parce que ça existe toujours, ça. Les Incas, ça a disparu, mais la civilisation chinoise existe toujours. On voit d'ailleurs à quel point elle a de la vitalité, et on pourra peut-être un jour se dire on aurait mieux fait de se poser le problème plus tôt. Bon, là aussi c'était une parenthèse. Quoi qu'il en soit, nous vivons aujourd'hui, je crois, la fin d'un processus qui a commencé il y a 10 000 ans. à savoir un processus que, je reprends un terme de Sylvain Auroux, qui est très proche d'un terme de Jacques Derrida, mais qui n'est pas le même, c'est ce que Sylvain Auroux appelle la grammatisation. Et Auroux a montré qu'il y a une histoire de la grammatisation, qu'on pourrait appeler une histoire du supplément, d'ailleurs, dans le langage de Derrida. Et je crois que cette histoire est entrée, avec la technique contemporaine, dans un stade ultime, à savoir que la grammatisation et la mnémotechnique étant devenues mnémotechnologie, la grammatisation est devenue le cœur même de la vie industrielle. Alors que jusque récemment, jusqu'il y a à peine un siècle, 70 ans, il y avait encore une coupure structurelle entre le monde des clercs, ceux qui maîtrisaient les symboles et les concepts, mais aussi les percepts artistiques, mais aussi le hiératique, le religieux, etc., d'un côté, et de l'autre, les producteurs de biens matériels, qui d'ailleurs correspondaient à un cheminé morphique. Il y avait d'un côté ceux qui pensaient les formes et d'autres ceux qui les matérialisaient d'une certaine manière. Tout ça correspondant à des modèles métaphysiques. Je pense que tout ça est terminé et que ça crée un contexte qui est bien au-delà encore de ce que Valérie avait néanmoins pressenti sous le nom de ce qu'il appelait la crise de l'esprit. On est, comme le disait Nancy tout récemment dans un bouquin récemment paru, c'est plus simplement une crise, c'est beaucoup plus qu'une crise, Jacques Derrida dit ça depuis au moins 10 ans déjà, et on est dans une rupture, véritablement, c'est le mot qu'emploie Nancy, dans une rupture par rapport à une loi de la vie. Car finalement, pour revenir à votre première question, la technique c'est une loi de la vie. Elle a connu cette technique différents stades depuis plusieurs millions d'années. À l'intérieur de cette très longue histoire, il y a l'histoire relativement courte qui remonte à environ 10 000 ans, l'histoire des grands empires et des civilisations européennes, chinoises, indiennes, etc. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes passés ailleurs. Cet ailleurs, c'est aussi ce qu'on appelle confusément la mondialisation.
Mais justement, avec la mondialisation, Bernard Stiegler, et ce que vous appelez la technique avec d'autres, la technique contemporaine, on peut aussi dire la technoscience, qui est sans doute un synonyme, la vie va devenir non seulement ce qui se prolonge, mais aussi ce qui se manipule. Donc une espèce de revers quand même qui se joue avec la technoscience. La vie est à la fois ce d'où provient sans doute une dimension essentielle de la technique, mais c'est devenu aussi un objet de manipulation de la technique. Donc une menace, elle est menacée profondément. Elle était même l'origine et en même temps le lieu d'une menace.
La vie devient une matière première industrielle aujourd'hui. On le voit très bien sur le végétal, c'est déjà fait depuis un bon moment. Alors on pourrait dire, mais ça c'est fait depuis justement le néolithique. Mmh. Sauf que, à l'époque du néolithique, on est dans la technique artisanale du vivant. Alors qu'aujourd'hui, on est dans la technoscience du vivant. Et en effet, c'est nouveau. Je ne dirais pas exactement que la technoscience et la technologie contemporaine sont la même chose. Parce que pour moi, la technoscience, ça commence à la fin du XVIIIe siècle. Je dirais que l'index historique de ce commencement, dans ma cartographie mentale de l'histoire, c'est Boulton, entrepreneur anglais, qui rencontre Watt, ingénieur physicien. Et c'est le début de la mise de la recherche scientifique et technologique au service de l'industrie. Et c'est donc l'invention de la technologie à proprement parler. Je prends là le mot technologie au sens actuel du terme, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle technologie? J'appelle technologie une technique qui mobilise des formalismes scientifiques, mathématiques, physiques et autres. Jusqu'à cette époque-là, la technique était totalement empirique. C'était donc une affaire d'artisan ou d'ingénieur au sens de la Renaissance. C'est-à-dire un sens un peu hybride entre les maçons de l'époque des cathédrales et ce qui apparaîtra avec Watt. Mais on était encore dans quelque chose de l'ordre du bricolage, pas très loin de l'alchimie. Alors qu'avec Watt, c'est terminé. On est véritablement dans la science mise au service du développement économique et industriel et de la production. On entre dans ce que on appellera avec Marx le machinisme industriel, au sens marxien du mot. Alors ça inaugure une nouvelle relation qui commence dès la fin du XVIIIe, dont Napoléon Ier va être celui qui va en faire un concept de l'État, parce que l'État va être pensé à travers ça par Napoléon. C'est comme ça qu'il crée l'école des ponts et chaussées, et qu'il crée tout un ensemble de dispositifs qui ensuite vont donner la conception jacobine de l'État du XIXe siècle en France. et qui va être un espèce de modèle par la suite d'organisation de l'évolution industrielle. Ça, c'est la technoscience qui apparaît donc pour moi avec la grande industrie en réalité. Ce que j'appelle c'est encore la technique moderne pour autant. Ce que j'appelle la technique contemporaine, la technologie contemporaine, c'est lorsque la mémoire est prise dans la chose. Que cette mémoire soit alphabétique, c'est la mécanographie. Audiovisuelle, c'est l'audiovisuel qui devient maintenant numérique. Ou vivante. Et c'est ce qu'on voit maintenant, mais depuis déjà maintenant une vingtaine d'années, avec la bionique, la procréatique, etc., etc. Là, il est absolument évident que nous sommes à la croisée des chemins. Et quand je posais la question tout à l'heure, à quoi tenons-nous dans l'homme? C'est là que la question est posée. Car effectivement, il y a une possibilité de production industrielle du vivant, y compris humain, il n'y a aucun doute. La chose est maintenant acquise. Elle n'est pas empiriquement acquise, mais elle est théoriquement acquise. Et elle se produira. Elle se produira parce que tous les possibles sont explorés systématiquement. Par rapport à ça, en effet, nous sortons d'une époque peut-être vieille de 4 millions d'années. Peut-être.
Quand vous dites, Bernard Stiegler, que tous les possibles sont investis ou exploités, c'est la question de la limite qui se pose un peu là. Jusqu'où peut s'engager, peut se développer la technique par rapport aux objets qu'elle exploite? Mais il y a non seulement des limites matérielles, techniques, mais aussi financières. Donc il y a toute la dimension économique qui peut devenir là l'enjeu d'une limite.
C'est toute la question, je dirais même, de savoir si c'est la limite économique qui commande les limites ou pas. Dans cette affaire, la grande question, c'est ce que des gens comme Negri et ses amis appellent la question, en prenant ça chez Foucault, du biopouvoir. La question aujourd'hui du politique, du technologique, du biologique, etc., c'est la question du biopouvoir. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du contrôle social, de la discipline, pour reprendre les concepts de Foucault. Je crois d'ailleurs aujourd'hui que il faut revisiter Foucault, Canguilhem, mais aussi Deleuze, etc., à la fois pour réinvestir ces problématiques, mais aussi pour les critiquer. Je pense par exemple que chez Deleuze, il y a un gros problème sur le statut qu'il accorde à la technique. Je pense que Deleuze reste dans une conception très métaphysique de la technique, aussi étrange que ça puisse paraître, que son concept de machine, par exemple, est totalement métaphysique. Alors même qu'il croit être au service d'une déconstruction ou d'une destruction de la métaphysique, lui ne parlerait pas évidemment de déconstruction, et qu'en revanche, chez Foucault, il y a une question de la technique qui est beaucoup plus opératoire que chez Deleuze, mais que Deleuze l'a un peu masqué. Quoi qu'il en soit, cette question du biopouvoir invite à revisiter en profondeur ces questions-là. Et dans cette question du biopouvoir est posée la question que vous venez d'instancier, à savoir le rôle de l'économique dans cette affaire. Pour moi, l'histoire de l'humain, c'est-à-dire de l'être technique, c'est l'histoire d'un être qui dispose de ce que j'appelle les dispositifs rétentionnels qu'il peut contrôler lui-même, enfin contrôler entre guillemets, sur lesquels en tout cas il a un pouvoir tout à fait spécifique et dont le politique est la question posée publiquement et explicitement. Il n'a pas de pouvoir jusque récemment sur son enveloppe génétique. Maintenant c'est plus le cas. Mais jusque récemment l'homme n'avait pas de pouvoir sur son enveloppe génétique si ce n'était de manière très très indirect, et donc c'était pas un contrôle. Maintenant il a un contrôle là-dessus. Mais depuis que l'homme existe, depuis 4 millions d'années, il a un pouvoir sur les critères de sélection dans sa mémoire. Car finalement l'homme est une machine à mémoire, et une machine à mémoire qui sélectionne tout le temps. Et la question étant, avec quels critères sélectionne-t-il? Au moment où apparaît le néolithique, par exemple, le critère hiératique devient majeur. Il faut sélectionner en fonction d'un critère qui est improbable, infinitisable et transcendant. Le prêtre égyptien, le prêtre roi, le basileus grec, le sorcier même, mais également le prophète juif, le rabbin, l'imam, le pasteur, ou encore le professeur au Collège de France, sont des autorités cléricales. Je dis bien même pour le professeur au Collège de France, c'est un clerc, parce qu'il y a des clercs laïcs, au sens où il n'appartient pas à la production, c'est-à-dire à l'économie et au marché. Ça n'est jamais au nom de critères utiles qu'il sélectionne. J'appelle sélectionner enseigner, Enseigner, c'est une manière de sélectionner dans l'histoire ce qu'on doit transmettre à ses étudiants. C'est au nom de critères qui sont, on peut les appeler transcendants, on peut les appeler politiques, juridiques, transcendantaux, scientifiques, c'est-à-dire universalisables en droit, sinon en fait, etc., etc. Ce qui se produit avec les technosciences, mais surtout avec les technologies contemporaines, c'est la liquidation de cette différence de critères entre ce qui est universalisable, transcendantalisable, etc., et le marché. Aujourd'hui, le seul critère qui vaille, c'est le marché. Est-ce que c'est rentabilisable et à quelle échéance? Et la limite, et la seule limite qui vaille, c'est celle-là. Eh bien, je pense que cet état de fait actuel ne peut pas durer. Je pense qu'il ne peut pas durer parce qu'il conduit nécessairement à l'entropie. Et quand je posais la question tout à l'heure, à quoi est-ce que nous tenons dans l'homme, je répondais à la négantropie. Moi, je crois que le marché est anthropique. Je crois qu'il est anthropique parce qu'il est de plus en plus sur le court terme. Vous savez, on l'a beaucoup dit depuis quelques années, les actionnaires veulent des rendements à deux chiffres et à moins de 5 ans. Bon. Je pense que si, par exemple, Napoléon Ier, à un moment donné, a créé une structure d'État, c'était aussi parce que la grande industrie ne pouvait pas supporter un certain nombre d'investissements à long terme qui posaient des questions d'avenir même de pays entiers et de civilisations. Je pense qu'on va revenir vers des questions comme celle-là. Par contre, je ne crois pas du tout qu'on y reviendra par la forme de l'État, et surtout pas de l'État-nation. Mais je pense que l'enjeu est là.
On vient d'entendre Bernard Stiegler parler de technique et de culture, et dimanche prochain, toujours en sa compagnie, on parlera de technique et d'anthropologie. Mais avant de vous retrouver, je vous recommande les études de Bernard Stiegler, « La technique et le temps » en 3 volumes, parus aux éditions Galilée à Paris. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire ou commander les cassettes de cette émission sur notre site internet rsr.ch. C'était La philosophie dans le miroir, il va être 9h et c'est le temps des informations suivies des offices religieux. Et je vous souhaite un bon dimanche.
Jusqu'au 25 novembre, Espace 2 vous invite à vivre en direct et en public l'intégrale des œuvres pour violon et pour violoncelle et piano de Beethoven. Chaque mardi à 20h30, découvrez une tranche de cette intégrale proposée par la violoniste Simone Sgraggen, le violoniste Raphaël Wallfisch et le pianiste Ulrich Koella. Le 4 novembre, c'est le violoncelle qui sera à l'honneur au studio Ansermet de la Maison de la Radio à Genève pour le deuxième concert de la série avec les sonates numéro 1, 3 et 4 et les variations sur un thème de Judas Maccabée. Beethoven intégrale, un événement Espace 2.
Espace 2, il est 9h.
Radio Suisse Romande.